Du dimanche 9 mars au mercredi 12 mars 2003, Douala, Bouéa, Mont Cameroun, l'ascension. Sur une carte, le Mont Cameroun est très proche de Douala, situé juste au nord-ouest de la capitale, le long de la côte. Ce volcan, toujours en activité, culmine à 4095 mètres. Notre ambition est d'atteindre son sommet depuis le niveau de la mer. Le premier tronçon, Douala-Bouéa, se fera en tandem, puis nous poursuivrons à pied. Depuis Bouéa, situé à 900 mètres d'altitude sur les flancs du volcan, il faut prévoir 3 jours d'ascension. Alors que nous traversons les bananeraies de la compagnie Delmonte au pied du mont Cameroun, une voiture s'arrête. 3 Blancs et 1 Camerounais viennent à notre rencontre. Nous faisons la connaissance de Patrice, à peine plus vieux que nous, qui nous témoigne beaucoup de sympathie. Il nous informe sur la distance et les dénivelés qu'il nous reste jusqu'à Bouéa. Sa question sur le lieu où nous comptons dormir, ne trouvant pas de réponse précise et pour cause, il met la main dans sa poche pour en sortir le trousseau de clés d'un appartement d'accueil de l'Alliance française de Bouéa, dont il est le directeur. En partant, il lâche en guise d'explication « J'ai fait le tour du monde à vélo pendant 3 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Bon courage pour la montée. » Sa connaissance de la topographie du site et son expérience des voyages avec des vélos chargés nous donnent confiance dans ses indications. Lorsque nous demandons aux personnes que nous croisons si le siège de l'Alliance française se trouve encore loin, tous nous donnent la même réponse. « Just for corner here ». Juste au coin de la rue, en Pidgin English, langue d'inspiration anglaise, parlée dans la région de Bouéa. Heureusement, à force de persévérance, cette petite phrase se révèle enfin vraie et nous finissons par atteindre le siège de l'Alliance, aidés sur les 150 derniers mètres par des enfants qui se disputent le droit de pousser Cyrano. Nous retrouvons Patrice à la fin de sa journée de travail. Il a fort à faire, mais nous consacre un peu de son temps. Il nous explique qu'il s'occupe de l'Alliance française depuis un peu moins d'un an et son retour d'un tour du monde en vélo sur le thème des dialogues des cultures, il n'aurait jamais imaginé se voir confier en si peu de temps les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui. Ce travail, il le considère comme une récompense, une reconnaissance des heures passées à pédaler ou à visiter des écoles afin de sensibiliser les jeunes populations francophones au dialogue des cultures. Son expérience m'impressionne et m'encourage pour le reste du parcours. Il nous reste encore du chemin avant notre retour en France, mais même si le quotidien nous fascine et nous surprend sans cesse, on ne peut s'empêcher de penser au retour, aux retrouvailles avec les proches, retrouvailles attendues et appréhendées. Nous laissons les tandems à Bouéa et emportons avec nous le strict nécessaire pour 3 jours d'ascension. Notre première étape doit être le Mount Cameroun Ecotourist Organization, une ONG co-gérée par des Allemands pour obtenir les autorisations d'accès au parc naturel et trouver un guide. En voyant Théo, un des responsables refuse de nous laisser partir. Pour lui, un aveugle ne peut se lancer dans une ascension que même des valides hésitent à faire. Devant notre détermination, il finit par accepter. Puis c'est au tour de 2 hommes en uniforme, natifs de la région, de tenter de nous dissuader. Là encore, à force d'arguments, nous les convaincons. Leur doute sur le défi que nous nous sommes fixés nous intrigue. Est-ce que le danger est bien réel, ou ces réactions sont-elles liées à la méconnaissance ou à la peur du handicap? Fort de notre expérience marocaine, l'ascension du Djebel Toubkal avec Azedine, nous choisissons la 2e option. Nous traversons des cultures de patates douces et de bananiers. Puis nous nous enfonçons dans une forêt dense. Nous marchons à bonne allure. En moins de 2 heures, nous sommes au premier refuge. Soit en moins de temps que ne nous l'avait annoncé le bureau des guides. Nous remplissons toutes nos réserves d'eau à l'unique source que nous croisons sur notre chemin. Nous reprenons quelques forces et nous apprêtons à repartir quand la pluie se met à tomber. Une pluie tropicale. De grosses gouttes viennent s'écraser sur le sol ou sur les tôles du refuge dans un boucan d'enfer. Notre guide, Charlie, décide d'attendre jusqu'à 15 heures. Si d'ici là, il n'y a pas eu d'accalmie, nous resterons dormir ici. Nous attendons impuissants devant les aléas climatiques. À 14h30, la pluie se calme. Nous repartons. Le ciel est toujours menaçant. Une averse nous force à nous protéger sous un arbre plus feuillu que les autres. Il faut du temps à la pluie pour traverser les multiples étages de la forêt avant de toucher le sol. La marche, ainsi entrecoupée de pauses forcées, commence à nous faire douter. Arriverons-nous au deuxième refuge? À quelle heure? Nous restera-t-il des forces pour poursuivre? La forêt amplifie le bruit de la pluie. Théo est attentif à ces variations sonores qui traduisent l'intensité de l'ondée. Parfois le vent le trompe, faisant tomber d'un coup l'eau accumulée sur les feuilles. Lorsqu'il s'agit d'une fausse alerte, je le lui fais savoir. Nous sortons de la forêt pour nous retrouver sur une vaste étendue oblique, recouverte de végétation rase, un mélange de vert et de jaune. La pente se raidit en atteignant les premières coulées de lave. Charlie nous indique que nous commençons la partie la plus difficile. La lave érodée forme des gravillons qui roulent sous nos chaussures. À chaque pas, nous gagnons 40 cm pour en perdre 20. D'une main, Désiré s'accroche au sac de Diego pour assurer son équilibre et se diriger à travers un dédale de petites, moyennes et grosses marches. De l'autre, il tient la canne blanche qui sonde le sol à la recherche d'obstacles que Diego aurait omis d'indiquer. Théo nous demande de plus en plus souvent de nous arrêter. Charlie nous encourage. Lui, qui avait commencé l'ascension à contre-cœur, commence à se prendre au jeu. Il donne à Théo le temps estimatif, restant jusqu'au deuxième refuge. Par tranche de 50 mètres, nous nous rapprochons du refuge et y arrivons enfin au moment où le dernier rayon du soleil disparaît derrière la ligne de crête. C'était juste, mais c'est passé. Nous sommes accueillis par un froid terrible. Rapidement, nous enfilons des vêtements secs et saluons les randonneurs déjà installés, des Allemands, des Canadiens, une Américaine. Théo et Désiré s'emmitouflent dans leur duvet pendant que nous préparons le repas. Quand nous nous levons à 5h, Théo et Désiré sont déjà réveillés depuis un bon moment, visiblement encore marqués par la journée de la veille et inquiets quant à celle qui nous attend. Ils ont perdu leur certitude et leur volonté de marcher sur le toit du Cameroun. Ils nous proposent de nous attendre là pendant que nous rejoindrons le sommet. Refus catégorique de notre part. On monte à 4 ou on ne monte pas. Mais nous restons lucides quant à l'éventuel dénouement de l'ascension. On essaye, mais si on voit que ce n'est pas possible, on fait demi-tour. La caravane se met donc en marche à 6h. Charlie plie le campement, nous laissant prendre un peu d'avance. Il nous rejoindra une heure plus tard. Lors des passages délicats, nous donnons des indications supplémentaires. Si tu devais tomber, privilégie la gauche. Théo nous dira par la suite qu'il s'imaginait alors en haut d'une falaise, tombant précipitamment jusqu'au pied du mont. À mi-chemin, Théo nous dit souffrir d'un orteil. Sa chaussure s'éventre littéralement et il marche quasiment pieds nus. Charlie se propose de lui donner un de ses souliers. Lui a l'habitude de faire l'ascension en sandalette en plastique. Comme Sarah et Tongue, cette Camerounaise, mère de 7 enfants, qui a gagné 6 fois d'affilée la course de l'espoir. Course annuelle de l'ascension du Mont Cameroun à partir de Buéa, 3000 mètres de dénivelé positif. Nous sommes en haut, mais quel froid. Nous n'y restons que le temps d'avaler quelques biscuits. Charlie applaudit. Lui qui a douté de notre capacité à y arriver durant toute l'ascension est impressionné. Pendant toute la descente, il se fait le porte-parole de l'exploit réalisé. Dans le carnet de bord du voyage que nous tenons quotidiennement, Théo nous a dicté. Je me trouve désormais sur une plateforme dominant le Cameroun tout entier. Ce challenge, je l'ai réussi. Au sentiment de joie qui m'anime, se mêle un peu de tristesse. Tellement de personnes vont en haut pour profiter de la vue. Jean-Christophe, Diego et Charlie ont la chance de bénéficier de ce sens après tant d'efforts. Il paraît que par temps dégagé, on peut voir le Nigeria, la mer. J'apprendrai plus tard que l'on ne pouvait voir la vallée du fait de la couche de nuages traversée la veille. Pour l'instant, je m'imagine ce paysage. C'est un endroit très propice pour cela. Tout n'est que découverte, je déborde d'imagination. Dans ma vie de tous les jours, j'ai mes repères, mes marques. Je n'utilise pas autant l'occasion d'imaginer. Le paysage qui se grave dans ma mémoire est très beau. J'ai réalisé des choses que je ne pensais jamais faire. J'ai l'impression d'être à la hauteur de ce qu'on n'aurait jamais pensé de moi. J'ai vaincu le Mont Cameroun. Encore une fois, j'ai surpassé mon handicap. Combien de clairvoyants ne sont pas arrivés au deuxième refuge? J'en suis très fier. J'ai fait quelque chose de grand, d'ambitieux, qui m'a beaucoup apporté. Je veux que ce soit un témoignage. Voilà ce qu'on peut faire avec de la volonté. La fatalité, je l'emmerde.